Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Laurent Baudouin. Porter son regard cette semaine sur une technique décrite dans le roman paru en 1952, L'homme démoli, de l'écrivain américain Alfred Bester, avec lequel je n'ai hélas aucun lien de parenté. Récit de science-fiction dans lequel un assassin trouve une astuce pour éviter que les télépathes n'aient la preuve de sa culpabilité en lisant dans ses pensées. Il apprend par cœur un jingle absurde et obsédant qu'il se répète en boucle intérieurement. J'ai déjà parlé du roman à l'antenne, mais là j'attire votre attention sur ce stratagème précis dont la variété des champs d'application me paraît intéressante. Faisons le test si vous le voulez bien, apprenons chacun par cœur un court air chanté et entêtant et récitons-le dès qu'une pensée délétère surgit. Découragement, haine de soi, désespoir, les occasions seront hélas nombreuses. Les endiguer avec un poème par exemple, c'est encore mieux, à nous de jouer. Président d'Arte, notre invité connaît les médias comme sa poche. Il a œuvré pour eux, les a dirigés et analysés. Presse, radio, télé et internet n'ont pas de secret pour ce curieux qui enseigne à l'école de journalisme de Sciences Po qu'il a dirigé pendant 14 ans. Cet homme littéralement multimédia, passé par Le Monde, les cahiers du cinéma, Télérama, Hachette Livre, Canal+, France Télévisions ou France Culture, où j'ai d'ailleurs commencé l'antenne sous son mandat, vient de publier chez Grasset « Tempête dans le bocal, la nouvelle civilisation du poisson rouge ». Suite de la civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention, paru chez le même éditeur en 2019.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Bruno Patino.
Bonjour.
Êtes-vous content d'avoir été mis au monde? Oui, ça commence toujours fort, mais bon.
Ça commence toujours comme ça. Écoutez, oui, plutôt en fait. Plutôt. C'est... En fait, on se pose pas la question au début, puis finalement, avec le temps qui passe, on se dit que c'est plutôt pas mal, finalement.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
Elle est toujours très compliquée. Mais on s'habitue, parce que ce que l'ensemble des gens disent, c'est qu'au bout d'un certain temps, on finit par se regarder soi-même, hein, pas ce qu'on fait, avec plus d'indulgence qu'avant. Donc la cohabitation est moins difficile, parce que on finit par finalement connaître ses travers et se dire que bah c'est pas si grave, en tout cas on espère.
C'est assez rassurant.
Madame, ne quittez pas l'écoute. Voici pour vous les propos du matin.
Bien souvent, au cours de nos émissions matinales, je vous ai conseillé, madame, de boire à votre réveil un grand verre de jus d'orange. Beaucoup, parmi vous, ont suivi ce conseil, mesdames, et ont constaté les bienfaits de leur cure. Mais ne soyez pas égoïste, madame, et insistez pour que monsieur, lui aussi, fasse sa cure de jus d'orange.
Voici ce qu'on pouvait entendre sur la RTF il y a 70 ans, extrait de Propos du matin du 11 février 1952, présenté par Elisabeth Darcet. Depuis, je crois que les hommes se pressent des jus tout seuls, et c'est le jus qui nous intéresse ici, puisque c'est ce qui vous donne envie de vous lever, Bruno Patino. Le jus d'orange qui dissipe l'angoisse matinale. Vous le pressez ou en bouteille ?
Ah non, en bouteille, j'ai aucun courage le matin, mais... En quoi ça a marché, hein, finalement, ce qui passait à la RTF sur le jus d'orange, puisqu'en fin de compte, il y a un moment de bascule entre le réveil et, j'allais dire, le moment où vous devenez actif. Et pour moi, ce moment-là est le moment, effectivement, du jus d'orange. Ça peut paraître idiot, mais le réveil est toujours un moment finalement assez angoissé en ce qui me concerne.
Angoisse même... qui naît le matin ou
exactement.
Qui vient d'une source plus profonde.
Je ne sais pas si ça vient d'une source plus profonde, mais le matin est très grande source d'angoisse, hein, et il faut que je me raccroche au verre de jus d'orange pour me dire que finalement ça va aller.
Donc c'est un symbole finalement, c'est virtuel. On se dit que parce qu'évidemment il y a de la vitamine C, c'est bon pour le système immunitaire, mais.
Oui, enfin c'est une idée de fraîcheur et de sucre, je pense, hein, donc d'un peu de douceur qui calme un peu l'angoisse. Et du coup, effectivement, je me raccroche à ça, c'est assez anecdotique, mais assez important en fait. C'est-à-dire que je vois bien ce qui se passe quand j'en ai pas, quoi.
Qu'est-ce qui se passe-t-il ?
Oh ben, la journée est difficile. La journée est difficile, l'angoisse se dissipe pas, donc la journée est difficile.
On remède assez accessible.
Oui, finalement.
Alors, dans un instant, on va parler de pas mal de choses, dont de silence, de signaux numériques, de Tintin, de Bach, de Régis Debray, de Patricio Guzman, de Walter Salles, de Beethoven et de Boco. On a jusqu'à 11 heures pour aborder tout ça.
À la fin du jour, dès que tout s'efface, j'avance dans la nuit, amère et meurtri. C'est triste que je laisse les papillons noirs posséder mon cœur et ma mélodie. Oh, oh, écoute, oh, oh, il chante la plus triste des chansons de ce triste monde. Amis désenchantés qui connaissaient le prix de la mère vérité, venez vous rassembler, car si le cœur est vide et la vie si vaine, qui va nous pleurer à la procession? Wow, wow, on chante la plus triste des chansons de ce triste monde. De ce triste monde.
La plus triste des chansons d'Arthur H. dans l'embellie sur France Inter, nous sommes avec Bruno Patineau. Vous qui êtes si éclairé en ce qui concerne le monde virtuel, aimez-vous le monde réel dans lequel vous vivez ?
Oui, mais en fait, ce que je préfère, c'est le monde imaginaire, évidemment. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a vraiment un monde virtuel. C'est-à-dire qu'effectivement, on est passé du moment où on se disait il va y avoir un monde virtuel où... à ce que le monde réel devienne connecté, il s'est changé comme ça. On voit qu'aujourd'hui, on revient à l'espèce d'illusion du monde virtuel, puisqu'il y a le métaverse dont on parle, qui serait effectivement une recréation du monde. Il y a même, pas seulement les GAFAM qui sont dedans, ce projet qui s'appelle Planète Zéro en ce moment, on essaye de reconstruire en virtualité une planète non détruite par l'homme.
Et qu'on va s'empresser de détruire.
Évidemment. Ou avec toute l'ambiguïté, c'est-à-dire elle est non détruite par l'homme, mais l'homme y est absent, ou alors l'homme est présent et détruit, et donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je pense qu'entre le réel et le virtuel, il y a l'imaginaire et qu'il est absolument nécessaire dans les deux cas.
Bruno Patineau, vous dites que nous savons tous qu'il y a énormément de choses à changer dans la société, et je vous cite, mais si je prends un détail, l'omniprésence de la musique et l'absence de silence, globalement si on pouvait baisser le son et ralentir le stroboscope en général, ce serait bien. Comment fait-on quand on dirige un média, en l'occurrence Arte, vous qui en avez dirigé de nombreux autres, pour ménager des silences ?
Alors, voyez, on se parle, vous avez fait allusion tout à l'heure à France Culture, où on s'est croisé il y a longtemps. Et ce qu'on apprend à France Culture et ce qu'on apprend à la radio, c'est que ce qui est important, c'est le silence. Et c'est si vous coupez les silences à un moment donné, de la même façon que dans un roman, les pages manquantes enfin, quand on dit manquante, c'est les pages dont on a l'impression qu'elles ne sont pas là, sont très présentes. Je pense qu'en radio, l'art du silence, comme dans la conversation, est extrêmement important. Alors, quand on dirige un média, c'est une très bonne question, dont on parle avec l'ensemble des équipes d'Arte, on essaye de le ralentir. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que il y ait du temps pour que soit la réflexion, soit l'imaginaire se déploie. Donc quand vous proposez des images, plutôt que de ralentir les plans, moi je suis toujours très frappé par un certain cinéma, j'adore les blockbusters ou autres. Là où je suis frappé de temps en temps, c'est quand ils font appel à des plans tellement courts, que le but n'est pas que vous les regardiez, qu'ils vous touchent ou qu'ils vous parlent, hein, de la même façon qu'une peinture peut vous parler, mais juste qu'ils produisent une espèce d'impression rétinienne qui fait que vous n'avez pas eu le temps de comprendre quelle était la sollicitation sur votre regard, que déjà on est passé à autre chose. Et je trouve en ce moment, effectivement, que depuis un certain temps, ça s'accélère de façon extrêmement forte, le débat public, l'espace médiatique ou autre. Et donc, très modestement, on essaye de décélérer. Donc on met en avant des récits qui laissent le temps à l'imaginaire et à la réflexion. Et j'espère que comme ça, on laisse un peu de temps dans des documentaires qui sont les nôtres. Il n'y a pas forcément de bande-son, il n'y a pas forcément de musique tout le temps. La musique, moi, je l'aime beaucoup trop pour la désirer omniprésente. Parce que finalement, au bout d'un certain temps, vous ne l'entendez plus ou elle vous insupporte. Et donc, voilà, faire attention à ralentir les images, ménager des espaces de silence pour qu'on se rende compte de ce qui arrive et que surtout on ait du temps. C'est-à-dire, moi, je crois vraiment que la ressource la plus rare aujourd'hui, on y reviendra peut-être si on parle de numérique, évidemment, c'est le temps. Et qu'un média, comment un média peut-il donner du temps à son auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, utilisateur, utilisatrice? Eh bien, je pense que c'est notre défi et je pense que c'est tout à fait possible, si vous voulez, dans la façon dont vous allez effectivement déployer les récits, proposer les débats. Moi, c'est ça. Il faut essayer de faire ça. Après, on y arrive ou on n'y arrive pas, c'est une autre affaire.
Mais il faudrait aussi pour cela que donc les médias proposent cette solution et que les spectateurs participent, puisque bon, on apprend dans La civilisation du poisson rouge que la moyenne d'attention d'un poisson rouge est de 8 secondes et celle d'un millénial 9 secondes, d'après des calculs établis par Google. Et on est dans une société non plus du spectacle, mais du spectaculaire, où on demande sans cesse à être diverti. C'est risqué de proposer ça.
Moi, je pense que on est dans une société de la sollicitation permanente. C'est-à-dire qu'on est au-delà du spectacle, on est dans la sollicitation, le hameçonnage permanent, presque l'impulsion, presque électrique, en fait. Vous savez, qui est, on vous donne une... Alors, évidemment, je mets des guillemets à ça, mais une petite décharge d'adrénaline, de dopamine, peu importe comment on l'appelle, à tout moment, une petite récompense symbolique à tout moment. Et oui, tout concourt à ça. Et en même temps, je pense qu'on ressent tous une fatigue intense face à cette sursollicitation. Et que finalement, voilà, avoir conscience de cette fatigue qui est à la fois individuelle, je suis en permanence sollicité, donc j'ai cette fatigue, je suis fatigué de devoir toujours répondre aux sollicitations de mon téléphone, de toujours devoir faire des choix, je mets des choix numériques, de toujours devoir répondre à quelque chose, et la fatigue collective existe aussi, je crois vraiment, et donc on peut tout à fait prendre un pas de côté et se dire à un moment donné, on va pas jouer sur l'accélération de cette fatigue, quoi.
Le silence peut être pris pour de l'ennui par certaines personnes.
Peut-être, moi j'ai grandi en étant... Je pense qu'on ne m'a jamais laissé m'ennuyer, peut-être que je le regrette beaucoup, mais non, le silence, c'est pas du vide, vous le savez bien d'ailleurs, c'est-à-dire que tout ce dont on parle là, les pages manquantes, les silences à la radio, les silences dans la musique aussi, le moment où, à un moment donné, entre deux notes, il y a un silence ou autre, c'est une présence. Et c'est une présence qui laisse une très grande liberté à celui à qui il s'adresse en réalité. Donc je rapproche pas du tout le silence de l'ennui, puisque je pense qu'encore une fois, d'abord on parle de qualité de silence, donc si c'était le cas, non. Et encore une fois, je pense que bien amené, bien présenté, la densité du silence s'apparente à quelque chose d'extrêmement intime, voire de secret, et que c'est en sens où ça nous touche au plus profond, quoi.
Bruno Patino, vos engagements prennent plusieurs formes. Il y a celui que vous venez d'évoquer, justement, de quand vous êtes présent dans l'imaginaire des spectateurs, vous avez une responsabilité dans ce que vous leur proposez. Et la deuxième chose, c'est que vous essayez d'être fidèle à vos engagements d'adolescence. Du moins, j'essaie, dites-vous. Quels sont vos engagements d'adolescence ?
En réalité, on est toujours formé soit par l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte qu'on a été. Moi, il y a eu un moment de bascule dans l'adolescence, qui est une banalité affligeante, hein, mais qui était juste être utile. C'est tout. C'est-à-dire que peu importe la façon dont vous l'êtes, peu importe de l'être directement, indirectement ou autre, c'est être utile. Donc, utile aux autres, utile, je ne sais pas, à la collectivité. En tout cas, cette notion d'utilité, donc je le rapproche effectivement de l'autre chose. Je pense que quand vous dites mon métier, c'est évidemment le métier, quand vous dirigez un média, c'est de provoquer une rencontre. Une rencontre entre, je ne sais pas, un créateur, quelqu'un qui porte une idée, quelqu'un qui porte un imaginaire, et puis le public. Et donc, effectivement, moi, j'essaye d'être sur les deux niveaux qui sont, provoquer cette rencontre, donc, et le faire de façon à ce que cette rencontre-là soit bénéfique pour celui qui va la faire, que ça lui apporte quelque chose, et en plus, peut-être, effectivement, avec une coloration, que ça lui apporte quelque chose, et en plus, que ce soit utile, quand même. Alors, j'aime beaucoup... cette idée, vous avez cité les médias dans lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours cette idée de dire, ben voilà, un média public ou un média de qualité, ça doit concourir quand même un peu à permettre au public de devenir citoyen ou permettre au public ou à chaque élément du public, chaque membre du public d'avoir des voies d'élévation, des voies de sortie, des voies de questionnement, des voies de maîtrise. Donc voilà, c'est l'utilité. C'est aussi simple que ça, mais j'essaye de suivre ça effectivement depuis peut-être mes 16-17 ans.
Est-ce qu'une rencontre que vous avez faite avec un prêtre dans une aumônerie aurait participé à cet état d'esprit, Bruno Patino ?
Vous avez lu vos papiers, oui, bien
oui.
sûr. En fait, c'est une rencontre adolescente par hasard, un moment... un camarade de classe vous emmène dans un endroit et en fait cette absolue nécessité d'utilité aux autres, deux autres choses aussi qui participent à la formation de l'individu, c'est la liaison permanente ou le lien permanent entre la démarche intellectuelle et la démarche spirituelle. J'ai pas dit religieux, j'ai dit spirituel.
Oui, on peut être athée spirituel.
Tout à fait. Et une chose, je voudrais pas choqué, mais en même temps, j'y fais un peu allusion dans les dernières pages du livre Tempête dans le bocal. C'est peu importe ce qu'il y a en haut ou ce qu'il n'y a pas en haut, il faut regarder vers le haut, quoi. Voilà. C'est parce que c'est le regard vers le haut, évidemment, je dis ça de façon symbolique, qui élève. Hein. C'est pas le fait qu'il y ait là-haut quelque chose ou que ce soit le grand vide. Hein.
Les parcours initiatiques et les questionnements intérieurs jalonnent vos choix, Bruno Patino, comme on va le voir.
Chang !
Que se passe-t-il ?
Chang arrive. Il va rendre visite à son oncle qui demeure à Katmandou au Népal. Et il me dit qu'il nous contactera de là-bas.
L'avion qui a percuté une montagne allait à Katmandou. Catastrophe aérienne au Népal. Pas de survivants. Parmi les disparus figure un jeune chinois. Chang Chongjian.
Oh, Chang ! Mon pauvre Chang !
Extrait de Tintin au Tibet, film d'animation produit pour la télévision en 91 d'après les albums d'Hergé. C'est dans l'ordre la première œuvre qui a changé votre rapport au monde, Bruno Patino. Le 20e album de la série des aventures de Tintin, Tintin au Tibet, paru en 1960. La recherche désespérée de Tintin pour retrouver son ami, le jeune chinois Chang, qui se rendait en Europe à bord d'un avion de ligne qui s'est écrasé dans l'Himalaya. Et alors, chose surprenante dans cet album, parce qu'il y a beaucoup d'aventures concrètes dans Tintin, c'est que c'est une aventure intérieure avec un peu de paranormal.
En tout cas, d'abord, c'est un album extraordinaire. D'un point de vue graphique, le blanc est partout. Et là, on parle du blanc, évidemment, de la neige ou autre, mais
comme
c'est du blanc
silences.
Du deuil, en fait. C'est comme les silences. C'est-à-dire que là, on a, c'est, je n'ai pas fait le rapprochement, c'est très juste. Pour moi, c'est un album absolument extraordinaire parce que il amène tout le questionnement dont on parlait jusqu'à présent. C'est-à-dire, d'abord, J'ai appris bien plus tard qu'en fait Hergé sortait d'une dépression lorsqu'il l'a dessiné et que ce blanc permanent omniprésent c'était sa dépression en fait.
Et ses cauchemars.
Et ses cauchemars et c'était en fait pour lui une descente. Et en même temps, dans cette descente, la quête de Tintin, c'est une montée, puisqu'il part de Lhasa et il monte en permanence, et c'est cette ascension dont on parle. Et donc, si vous voulez, à la fois le blanc omniprésent, la dépression dont on se sort par une ascension résolue, certes, et puis par ce qui est un acte de foi. Finalement, parce que lui décide par un rêve, alors on peut appeler ça le paranormal ou une certitude ou la foi ou peu importe comment on l'appelle, mais Tintin décide à un moment donné que non, il n'est pas mort. Vous vous souvenez, enfin,
c'est le seul à maintenir ça.
Dans la version de télévision, je ne sais pas si c'est là, mais dans l'album, je me souviens très bien qu'il dit, et puis non, Chang n'est pas mort. Donc, Haddock lui dit quoi? Chang n'est pas mort. Mais si, il est mort. Non, il n'est pas mort. Et donc, hop, debout, on y va, on marche. On marche résolument vers sa conviction profonde. Et c'est cette conviction profonde qui vous sort, en fait, du blanc permanent que vous allez devoir malgré tout traverser. Parce qu'il y a cette idée aussi qu'on retrouve dans à peu près toutes les religions du monde ou les grands textes laïcs du monde, que pour monter, il faut d'abord descendre. Il faut descendre tout en bas pour monter tout en haut. Et donc, il va y avoir ce parcours qui est à la fois une descente, même à un moment donné, une avalanche pour aller dans la montée et retrouver ça. Et donc, voilà, c'est un album qui... c'était assez marrant parce que moi, je suis... par mon père d'origine latino-américaine, donc évidemment j'ai fait connaissance avec Tintin par le Temple du Soleil, qui appelait beaucoup de choses chez moi, on va dire, mais comme on peut être attiré par une partie de sa culture ou autre quand on est enfant, et puis tout d'un coup Tintin au Tibet, c'était un texte, c'est toujours d'ailleurs un texte et un album qui effectivement a une très grande importance dans mon lien avec la vie, oui.
Écoutons maintenant le saint patron de l'émission. Concertos pour violon de Bach nous sont parvenus, les experts disent qu'il y en a plus. Là, on entend le concerto numéro 1 pour violon en la mineur de Bach, interprété par le Bach Collegium de Stuttgart, dirigé par Helmut Rilling, avec Elisabeth Faust au violon. Je crois non seulement qu'il s'agit de votre premier disque, Bruno Patino, mais ce morceau qu'on entend, vous l'avez joué au Bach, vous venez de me l'apprendre pendant...
Bach au Bach musique, en fait. Oui, à l'option musique, j'ai joué effectivement le... évidemment beaucoup moins bien que ce qu'on vient d'entendre, le troisième mouvement du concerto en la mineur, donc exactement ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Beaucoup moins bien, encore une fois, je le dis, mais oui, tout à fait.
Vous jouez du violon depuis l'âge de 5 ans?
Ouais, ou 4, je sais plus, enfin par là.
Et vous aviez un badge, Jean-Sébastien Bach?
Ah oui, JSB.
Ah oui, ça, donc, c'est très punk.
JSB Forever, ou... Non, bien sûr, JSB... Bach, c'est le père de toute chose.
La musique est très importante pour vous, vous qui en redoutez l'omniprésence. Vous êtes le fils d'un chef d'orchestre bolivien et petit-fils d'un compositeur et directeur des fanfares.
Ouais, mon grand-père bolivien, qui était un indien aymara, petit à petit avait monté, on va dire, les échelons jusqu'à l'endroit qui lui était permis, parce qu'évidemment, en étant indien, on ne pouvait pas aller jusqu'au bout de la montée sociale grâce à la musique, et il était directeur des fanfares au début du XXe siècle. en Bolivie, et donc compositeur officiel, en fait. Vous savez, les fanfares en Amérique latine, c'est quelque chose de très important, et donc il était compositeur officiel de quantité d'hymnes, de mélodies, pouvant aller de la marche présidentielle à l'hymne du club de football, qui en bon espagnol s'appelle The Strongest, donc les plus forts, qui est un des clubs de football de La Paz en Bolivie, et il est l'auteur d'une espèce de tube, si on peut se dire, qui est un foxtrot andin, donc avec un rythme de foxtrot et une tonalité pentatonique toute andine, qui s'appelle Il neige, Nevando está, qui se joue encore là-bas, quoi.
Voilà. On peut trouver cet art sur Internet?
Partout, oui. Vous demandez un moteur de recherche dont le nom commence par G,
oui.
Et vous mettez Nevando está, et vous allez voir, à mon avis, une centaine de versions possibles. Ouais.
Vous avez des chroniques mensuelles dans Rolling Stone.
Ouais.
Vous êtes vraiment mélomane.
Je sais pas, enfin, j'adore la musique, ouais. J'adore tout. Bah, évidemment, je parle moins de Jean-Sébastien Bach dans Rolling Stone, et plutôt de la Sainte Trilogie, Beatles, Dylan, et après le troisième, je sais pas, enfin, en tout cas de ces deux-là, et puis ensuite ça change entre les Stones et les autres, mais enfin de cette musique-là, oui. La chronique s'appelle My Back Pages, qui veut dire mes pages passées, en fait. C'est un peu nostalgique, c'est un titre de Dylan. Et voilà, oui, une fois par mois, on écrit là-dessus. Et en fait, finalement, on en revient aussi au livre, c'est-à-dire que j'écris sur cette musique-là au choc du numérique et de nos nouveaux usages, quoi. Qu'est-ce qui lui arrive et qu'est-ce qui se passe, mais par le côté anecdotique, toujours, parce que je pense que ce qui est intéressant dans l'histoire des médias, si j'ose dire, ou l'histoire du numérique aujourd'hui, c'est l'impact sur notre vie, c'est ce que ça dit de notre vie. Et alors, la musique, c'est quand même intéressant ou inquiétant d'ailleurs, de voir le moment où elle n'était disponible que quand elle était jouée, puis ensuite elle a été disponible au moment où elle était enregistrée, mais disponible collectivement, et maintenant elle est enfermée dans nos casques et individuellement, et donc il lui est arrivé quelque chose quand même.
La voix qu'on va entendre a pas mal chanté en Amérique latine.
Il y a des gens qui commencent par être français et qui découvrent le monde. Moi, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai commencé en citoyen du monde et j'ai fini en citoyen français. Ça ne veut pas dire que je me désintéresse de ce qui se passe ailleurs. Ça veut dire simplement que, vous savez, comme dans les romans de formation, il faut aller à l'étranger pour se découvrir soi-même. Il faut... C'est la rencontre avec l'autre qui fait advenir le moi. Bon. Alors, j'ai beaucoup rencontré d'autres cultures, d'autres hommes, d'autres vocations, et puis voilà, je rentre au bercail.
L'écrivain, penseur et haut fonctionnaire Régis Debray, invité de Jean Lebrun dans les matins de France Culture en 1996, au moment de la sortie de son ouvrage « Loué soient nos seigneurs », livre abordant ses héros successifs, Castro, Guevara, Allende et Mitterrand, son mentor Althusser, à travers le récit de la lutte armée en Amérique latine dans les années 60, aussi de la vie politique française des années 80. Le livre commence par cette phrase « Je hais la vie publique et les politiciens ». C'est une réflexion sur l'engagement et la désillusion, sur l'excitation qu'on ressent quand on imagine les idées de gauche et leur mise en pratique plutôt décevante, et surtout sur le triomphe du pragmatisme sur le romantisme. Bruno Patineau, « Loué soient nos seigneurs, une éducation politique », en quoi ce livre a compté pour vous ?
Oh, mais c'était un livre dont la lecture a été... Je sais pas comment dire, je trouve pas l'adjectif, mais enfin, je l'ai lu, relu encore, pour même l'anecdote. Quand il est sorti, j'ai écrit à Régis Debray, que je ne connaissais évidemment pas, chez Gallimard, en lui disant, voilà, je vous ai lu, etc. J'ai écrit une longue lettre, à ma très grande surprise, il m'a répondu. Et encore une fois, nous ne nous connaissions absolument pas, j'étais jeune, et il m'a répondu une très longue lettre. Non, si vous voulez, d'abord... En dehors du talent d'écriture de Bray, de ses réflexions, d'abord c'est un livre qui n'est pas seulement un livre d'observateur, mais d'observateur, acteur, penseur. C'est-à-dire que vous êtes sur les trois choses. Déjà, de Bray, il pense, mais aussi il essaye d'agir, et puis il s'observe aussi en train d'agir, et puis il s'observe là rétroactivement. Puis évidemment, il parle de Mitterrand. Moi, j'avais 15 ans en mai 81, et donc j'ai un souvenir extrêmement fort du 10 mai 81. Mais il parle aussi, pour moi, d'une mémoire reconstruite, si vous voulez, imaginaire, évidemment, qui était d'à côté Guevara en Bolivie. Moi, je suis à moitié bolivien, et donc sa fameuse campagne qui va déboucher sur son décès en octobre 67. Et puis il vous parle d'Allende, Allende en 70, en 71, et donc le sous-titre du livre, vous l'avez mentionné, c'est Une éducation politique, et disons que c'est mon livre de chevet pour l'appréhension politique, quoi, c'est-à-dire l'entrée ou la réflexion politique. Donc ce livre-là a vraiment été absolument, je crois, fait partie de mon panthéon personnel, entre guillemets, dans des grands livres politiques, et surtout qui ont une résonance, encore une fois, extrêmement forte, non seulement par ce dont ils parlent. Moi, après, j'ai pas pu m'empêcher, hein. C'est-à-dire que en Bolivie, aller y voir, hein, pas seulement le pays, mais l'endroit où ça s'était passé. Une fois en poste au Chili, j'étais correspondant du Monde, de retrouver les témoins de l'époque d'Allende ou de retrouver tout ça. Même puisqu'on est dans l'anecdote, j'ai retrouvé un vieux numéro du journal qui s'appelait Punto Final, qui était le journal des communistes, dans lequel il y avait une interview croisée entre Allende et Debray. Régis Debray n'aime pas trop qu'on lui rappelle ça, parce qu'il a l'air dans l'interview de donner des leçons à Allende, et c'est pas tout à fait faux d'ailleurs, il lui donne des leçons, et quand même l'homme d'État c'est quand même Allende, et même si Régis Debray est un penseur hors pair. Et donc, depuis, de revenir encore et encore là-dessus, et puis surtout ce triptyque-là, pas seulement en politique, mais dans la vie, je descends de 50 crans, pour vous dire, de très modestement, dans ma vie professionnelle. J'essaie à la fois d'agir, de regarder ce qui se passe par ailleurs, et puis de réfléchir sur ce qui se passe. Donc ce triptyque-là, cette triple façon d'être au monde qui vous entoure, m'intéresse, ouais.
Ouais, c'est assez magistral, en tout cas, comme récit. C'est près de 600 pages, avec beaucoup de style. Ça swing, ça a l'air honnête, même s'il y a forcément des pauses. Et puis à la fin, il y a un petit dictionnaire ironique qu'il appelle « petit lexique militant », assez drôle, comme par exemple avec l'entrée « engagé », où il dit « expression devenue obscène » ou « innocence techniquement impossible ». On reste en Amérique latine avec l'un des films constituant votre panthéon existentiel, Bruno Patino.
Un groupe d'astronomes descubrió que las estrellas se podían tocar con la mano en el desierto de Atacama. Envueltos por el polvo estelar, los científicos de todo el mundo construyeron aquí los más grandes telescopios de la Tierra.
Un groupe d'astronomes a découvert qu'on pouvait toucher les étoiles du doigt dans le désert d'Atacama. Enveloppés de poussière stellaire, les scientifiques du monde entier ont construit ici les télescopes les plus puissants de la Terre. On entend un extrait de « Nostalgie de la lumière » de Patricio Guzman, sorti en 2010. Nous sommes au Chili, à 3000 mètres d'altitude. Le présent n'existe pas, c'est ce qu'on apprend dans ce magnifique documentaire qui a la beauté, qui fait verser des larmes, notamment par les sujets aussi qu'il soulève, puisqu'il y a une double réflexion, et je vous laisse nous dire pourquoi, Bruno Patino.
En fait, c'est une réflexion sur la mémoire qui est le seul sujet qui intéresse Patricio Guzman depuis qu'il a filmé la bataille du Chili, mais qui était en 73. Mais depuis lors, il revient encore et encore sur la mémoire. Et ce film est une merveille absolue, puisqu'il nous parle d'un voyage dans le temps, de la mémoire individuelle déjà, puisqu'on y voit ces femmes qui creusent, je ne sais pas comment dire ça, qui passent le râteau sur le désert d'Atacama, qui est un des déserts les plus secs de la planète, à la recherche du corps, des dépouilles, de ce qui reste des disparus pendant la dictature, dont on pense avec certitude que beaucoup de charniers se trouvent dans ce désert-là. Et donc il y a le parallèle en permanence entre ces femmes qui fouillent le sol à la recherche de la mémoire de leurs enfants ou compagnons ou autres disparus, et juste à côté, un des plus grands observatoires du monde, télescope du monde, je cherchais le mot, pardon, où on voit la lumière d'étoiles passer, c'est-à-dire la lumière qui nous parvient, c'est la lumière d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Donc là aussi, c'est un voyage dans le temps, dans un temps révolu et qui brille encore. Et donc évidemment, je vous laisse imaginer comment, d'un point de vue cinématographique, documentaire et poétique aussi, puisque le texte est d'une force poétique incroyable, on tisse les deux sur cette quête permanente de l'être humain, de la mémoire, à la fois qui brille alors qu'elle n'est plus, et qui est présente alors qu'on ne la voit pas, puisqu'on essaye, on trouve. Et donc cette quête, cette double quête, dont il ne fait une seule quête en fait, dit beaucoup de la condition humaine, avec tout ce qu'elle a de dramatique et de belle, de dramatique, puisqu'il s'agit... Il s'agit de trouver ce dont il ne reste plus trace, mais juste une présence mémorielle et une lumière qui nous, j'allais dire, qui nous illumine, alors même qu'elle a cessé d'exister depuis de nombreuses années déjà.
C'est absolument magnifique. On mettra les références sur le site internet. Et Guzman, qui a été emprisonné par le régime de Pinochet lors du coup d'État de 73, ça me fait penser, Bruno Patineau, que vous avez eu un entretien avec Pinochet qui n'a jamais été publié.
Oui, c'est une drôle d'histoire, mais... C'était en 92 en fait, je couvrais le Chili pour Le Monde et j'ai eu la chance professionnelle, on va dire, d'interviewer le général Pinochet. J'étais relativement jeune. C'était une personne c'est très étrange de d'interviewer quelqu'un qui fait partie de votre panthéon personnel, mais du côté, pardon, de ce truc pop culture, du côté obscur, si j'ose dire, de votre panthéon personnel. C'est très étrange. Et c'est très étrange de se retrouver à distance de moins de 20 cm avec sa main sur votre épaule quand il vous parle, d'une petite voix extrêmement fluette. Et donc l'entretien devait durer un quart d'heure, il a duré plusieurs heures. Et après, on va dire que ça a été très compliqué. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que était-ce ma jeunesse, était-ce le moment, au bout d'un certain temps, il s'est laissé aller à des propos particuliers et ça a provoqué un certain nombre de soucis. Voilà.
Mornings turn to night and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when a new can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Halls of rolling ice and waterfalls, I can't help but smile. Troubled fortunes lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I said, it don't matter to me. Can't be a slave. If it's where I wanna be, then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down? Slave if I'm already free, not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls, who's gonna catch me when I fall down?
Blame de Gabriels sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie de Bruno Patineau.
L'embellie. Eva Bester.
El plan. Recorrer 8000 kilómetros en 4 meses. El método. La improvisación.
El cuerpo enfermo no resiste más. Hay que prevenir las cosas de la vida.
Objetivo. explorar el continente latinoamericano que solo conocemos por los libros.
Le film que tout le monde devrait voir pour être armé dans l'existence, selon vous, Bruno Patino, c'est Carnet de voyage de Walter Salles, sorti en 2003 avec Gael Garcia Bernal et Rodrigo de la Serna, jouant respectivement Ernesto Guevara et son ami Alberto Granado. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, le plan, parcourir 8000 km en 4 mois, la méthode, l'improvisation, objectif, explorer l'Amérique latine qu'on ne connaît que par les livres. On est en 52 et les deux jeunes Argentins parcourent l'Amérique latine en tombant tout le temps avec des problèmes d'argent et à peu près toutes les sortes.
Oui, en fait, c'est un peu importe que ce soit Guevara finalement, même si c'est évidemment c'est tiré de son journal, mais en fait, c'est un récit initiatique. Moi, j'adore les récits initiatiques. Et en fait, de quoi on parle là? On parle de deux jeunes de la classe aisée qui, à un moment donné, décident effectivement d'aller y voir. Aux côtés d'eux, on retrouve Debray, en fait, finalement. Et il remonte depuis, ce qu'on appelle la panaméricaine, et ils vont remonter l'Argentine, le Chili, et puis ils vont finir au Venezuela. La dernière scène du film est absolument extraordinaire, puisque Guevara s'envole vers ce qui sera son destin, Granados reste là où il est, et en fait, il montre à quel point le contact avec les autres les a changés. Et donc je trouve que ce film est extraordinaire, parce que c'est le récit d'une initiation, mais d'une initiation grâce aux autres. C'est-à-dire que souvent les récits initiatiques, c'est « je suis seul face à des obstacles », le narrateur ou la narratrice est seul face à des obstacles, les surmonte pas, et c'est ça qui fait l'initiation. Là, dans ce film-là, ce qui les transforme en hommes et en êtres agissants, en êtres humains agissants, c'est le contact avec les autres réalités, les autres histoires, les autres douleurs, les autres difficultés. Et c'est cet éveil-là, on parle de deux éveils, qui est formidablement bien rendu dans le film. Gael Garcia Bernal est absolument époustouflant, son compagnon aussi, et vraiment la suite n'est jamais caricaturale. Les paysages latino-américains, évidemment, vous rendent, si c'est besoin encore, amoureux de façon définitive du continent. Quand vous faites le chemin, ça m'est arrivé de le faire à deux reprises en debout, vous apercevez que ça n'a pas tellement changé, en fait. Voilà.
Bruno Patino, je vous ai demandé quelque chose de beau à recommander aux auditeurs. Là, on vient d'entendre le deuxième mouvement du cinquième concerto pour piano de Beethoven, Adagio un poco moto, interprété ici par l'American Symphony Orchestra, dirigé par Léopold Stokowski, avec Glenn Gould au piano. Un concerto composé en pleine guerre napoléonienne, entre 1808 et 1811. Beethoven était assez affecté, et je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, ça me fait penser tout à l'heure à Hergé, qui a créé un chef-d'œuvre d'une dépression.
Oui, en tout cas, voilà, si l'éternité existe, j'espère qu'elle ressemble à ça, quoi. Je connais, je crois, rien de plus beau, en fait. Voilà.
Il n'y a pas de mots quand c'est l'absolu.
Non, c'est tout.
Bruno Patino, je vous ai demandé un engagement à prendre à la sortie de cette émission. Et alors, c'est un engagement courageux pour un homme dans votre position et aussi éclairé sur le sujet, diminuer votre temps de portable, sortir du bocal justement. Donc dans cette période d'écran total, hein, que la pandémie a évidemment renforcé.
Oui, en fait, c'est un engagement quasiment impossible, quoi. C'est-à-dire, je tourne autour depuis plusieurs années. C'est ce qui fait que j'ai écrit un moment La civilisation du poisson rouge et puis Tempête dans le bocal maintenant. J'essaye d'y arriver et j'y arrive pas.
Comment vous faites ? Est-ce que vous mettez en place des choses concrètes ?
Oui, bien sûr. Je le mets loin et puis j'ai envie d'aller le voir. Et je l'éteins et puis je le rallume. Je le pose écran face contre la table et puis je le retourne. Je le mets sur silencieux et puis du coup je le retourne trois fois parce que je me dis il a dû se passer quelque chose. Je dis au contraire je laisse la sonnerie, etc. Parce que je me dis du coup je vais pas y toucher quand il se passe rien. Mais en fait, pour le moment, j'arrive à aucune technique. Il y avait dans une université américaine, je le raconte, ils ont une prof de littérature a développé un module où on essaye d'apprendre aux élèves à lire longuement, c'est-à-dire plus de 30 minutes d'affilée, et elle met les portables dans un sac qu'elle appelle le sac de la douleur. Et je vais essayer le sac de la douleur, j'ai déjà essayé, je le ressors de là très très vite. Donc j'ai tout essayé, même les trucs qui filtrent, enfin tout, mais ça marche pas.
Alors, est-ce que vous pourriez nous parler d'une proposition qui nous vient du Chili, du Sénat chilien, qui est assez belle?
Non, ils ont eu une proposition à un moment donné qui était de garantir nos neurodroits. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, bah, en fait, finalement, les droits de l'homme, c'est très important, puisque ça a provoqué quoi? Deux choses, en fait, la sacralité du corps. On n'a pas, en théorie, plus le droit de provoquer des douleurs corporelles sur les individus. Et puis, le sacré de la conscience et de l'expression, capacité. Ils se disent, bon, bah, maintenant, face aux techniques d'extraction, on va dire, de nos données individuelles et petit à petit de prévisibilité de nos contextes neurologiques, on va peut-être devoir parler des neurodroits. Donc c'est évidemment, c'était sérieux parce que c'était dit par le chef d'État, c'était à la conférence des chefs d'État d'Amérique latine. Ça reste quelque chose de totalement virtuel, mais je me suis dit que finalement on était rentré dans cette étape-là de notre civilisation. Il allait falloir se préoccuper un peu de ce qui se passe à l'intérieur et pas seulement de ce qui s'exprime vers l'extérieur ou de notre enveloppe corporelle.
Peut-être que le spirituel pourrait nous donner un coup de pouce.
En tout cas, ce que je crois, c'est que c'est là où on va retrouver Régis Debray, parce que finalement tout ça...
On le retrouve toujours,
on le retrouve Régis toujours. Debray. Régis Debray, il fait en sorte qu'on le retrouve toujours, en tout cas. C'est-à-dire qu'il dit toujours qu'on a besoin de transcendance, qu'on a besoin en tout cas de verticalité. Et moi, je suis absolument sûr qu'on a besoin de verticalité. Ça. Moi, ça, c'est sûr.
Merci beaucoup, Bruno Patineau, d'être venu.
Merci à vous, Eva.
Je rappelle que la suite de La civilisation du poisson rouge est sortie en janvier dernier chez Grasset sous le titre Tempête dans le bocal. C'est passionnant, un peu terrifiant, mais quelques solutions sont proposées. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, nous, sur les réseaux sociaux, mais n'y allez pas trop. J'espère que votre âme sera aussi affermie que celle d'une poule capitaine conquérante apercevant de la proue de son navire des terres merveilleuses. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.